aujourd'hui. Et pour ce cours-là, on va les situer après dans la semaine. Pour ce cours-là, vous avez besoin de votre livre de Bereshit. Alors, le plus rapidement possible, avec traduction française et le Rashi, vous allez voir très rapidement qu'on ne peut pas se servir des traductions. Mais, comme vous ne savez pas encore lire en hébreu même, vous allez vous aider de la traduction pour le sens général. Mais chaque fois que nous aurons l'occasion de traduire en étude un verset, n'oubliez pas dans vos cahiers de notes, je vous montrerai comment un peu tout à l'heure, d'avoir la traduction exacte que nous aurons établie en français dans le cours. À la longue, j'espère que vous serez des hébraïsants, enfin je veux dire des parlants hébreux, et vous oublierez les traductions en français, vous penserez en hébreu, mais de telle sorte d'avoir un recodage plus exact d'après le texte originel qui est en hébreu. Vous verrez ça que même dans les traductions de commentaires, de Rashi, toute traduction, en français c'est très difficile de traduire l'hébreu dans un sens précis, parce que le français est une langue d'un tout autre genre, qui est très nuancée, une langue très riche, le français, vous devez le savoir, et le recodage avec la sémantique hébraïque est très difficile en français. Par contre, dans une langue comme l'anglais, c'est beaucoup plus facile. Donc, ceux d'entre vous qui parlent anglais pourraient mieux utiliser les traductions anglaises. Par exemple, il y a une excellente traduction anglaise de Rashi, c'est le Silverman. Je vous conseille plus, si vous avez besoin de traduction, de vous référer à des traductions anglaises ou allemandes plutôt que françaises. Vous allez apprendre pourquoi dans l'étude. L'anglais, je connais, je pense que la raison est que la langue anglaise officielle s'est constituée au bas Moyen-Âge à partir des traductions de la Bible. Alors c'est pourquoi le langage est plus proche de l'hébreu dans ses structures internes. Tandis que le français, ça nous renvoie à un tout autre horizon culturel où vous verrez les difficultés. Chaque fois que les traducteurs ont dû traduire un verset ou un commentaire, ils ont dû choisir entre différentes formulations possibles. Et donc ça atteint un aspect du sens, mais ça recoupe tous les autres. Et quand on en est privé, ça devient fou. Vous voyez à peu près quel est le problème. Donc faites bien attention à ces problèmes de traduction. Alors vous aurez, mais je termine l'analyse, vous aurez donc deux cours, et on décidera ensemble si vous les préférez suivis. On vous laisse du rébar, enfin du temps entre les deux, sur l'étude du livre de Bereshit. On va faire un survol très rapidement pour assister, comme je vous l'ai dit l'autre soir, à l'apparition de l'identité d'Israël et à sa signification dans l'histoire universelle. Donc c'est un des cours fondamentaux. Vous ne trouvez rien écrit à ce sujet. Par conséquent, en faites attention dans la manière dont vous prenez vos notes. Alors ce que je vous conseille, si vous avez un cahier, si vous avez des feuilles, prenez deux feuilles différentes, si vous avez un cahier dans une page, celle-là ou celle-là, peu importe, vous mettez le déroulement de l'analyse du sujet du cours. Ceci dit, énormément de digressions risquent de s'intégrer, enfin de, comment dire ce que je veux dire, soit par vos questions, soit parce qu'on aura besoin de prendre un quart d'heure pour expliquer un mot, vous les mettez dans l'autre page. De telle sorte que, et ensuite quand vous préparez votre cahier, et ça c'est le brouillon bien sûr, et la page des notes, c'est tout à fait autre chose, ça c'est votre culture générale, mais les sujets, que ce soit bien rédigé, de la façon la plus sobre possible, si vous avez des réflexions personnelles, ça vous les mettez d'autre part, vous ayez un plan que vous puissiez avoir par cœur. Et de telle sorte qu'on puisse se servir des connaissances déjà apprises dans les cours précédents pour avancer. Vous comprenez ? Ce qui risque de nous handicaper le plus, c'est si on est obligé de revenir en arrière parce que quelque chose n'est pas resté dans la mémoire. C'est clair ce que je dis. Et vous allez avoir un coup de suivi de l'année. Ce n'est pas des conférences où chaque jour se referme sur lui-même. C'est un cours dont on ne peut pas progresser si ce qu'on n'a pas appris dans les cours précédents n'est pas intégré dans la mémoire. Alors bien entendu, on aura utilisé toutes les connaissances annexes qui viendront dans la deuxième page, ce que vous appelez les digressions, vous devez les avoir aussi dans la mémoire, mais c'est quand vous préparez vos cours, d'isoler une unité de connaissance qui est l'analyse qu'on a eue dans le cours précédent. Voilà. C'est clair ce que je vous dis là. Alors ce que je vous demanderai aussi, c'est de tenir un dictionnaire, on peut appeler ça un lexique, et que vous fabriquerez vous-même, pour mettre tous les mots hébreux nouveaux que vous apprenez dans tous les cours. Et chaque soir avant de vous endormir, ou le matin si vous levez très tôt, vous prenez un quart d'heure et vous les rappelez. Vous allez apprendre énormément de mots, pas seulement en hébreu d'ailleurs, vous allez en apprendre beaucoup en français, qu'on va en étudier le sens pour pouvoir recoder dans la traduction. Et ne laissez pas le temps passer. Je veux dire, ce que vous apprenez dans la journée, faites-le le bilan le soir dans la mémoire. Parce que si vous laissez gagner par le temps, c'est le temps qui sera plus fort. Oui, oui, c'est juste. La course contre le temps, on ne gagne jamais. Si on ne découpe pas en petits morceaux de durée, on intègre chaque fois ce qu'on a appris. C'est-à-dire, si vous dites, bon, après demain, je vais le cours d'avant-hier, c'est fichu, tout ce cours-là sera handicapé toute la vie. Est-ce que c'est clair? C'est un effort à faire, de discipline à acquérir. Un de mes maîtres, moi j'ai beaucoup de gens, j'ai énormément de maîtres, mais enfin, un d'entre eux, vous avez donné un conseil que je vous donnerai. Ne vous endormez pas avant d'avoir appris une idée nouvelle, indépendamment des connaissances que vous avez dans les cours. Mais ça va s'organiser dans votre mémoire, et il faut qu'apparaisse une idée nouvelle que vous n'aviez pas envisagée de cette manière avant, et vous l'intégrez avant de vous endormir. Sinon, vous ne pouvez pas dormir tranquille. C'est clair ce que je dis là. Vous êtes encore à l'âge, la mémoire est un peu encore, pas tellement, mais un peu encore plastique, comme on dit, fluide, comme on dit ça,
maléable.
Profitez-en, parce qu'après la synthèse mentale se sclérose et vous deviendrez des machines impersonnelles qui répéteront des poncifs et des schémas et des clichés et vous serez déjà vieux sans le savoir. Alors il faut garder votre esprit libre. La connaissance est une espèce de construction qui se fait et se défait constamment. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Si vous figez des propositions, des concepts, des phrases, alors vous pensez par cliché, et ça c'est la vieillesse de l'esprit et c'est dommage à votre âge. C'est clair ce que je dis là? Habituez-vous à faire des jeux de construction qui se détruisent et qui se refont constamment avec tout ce que vous apprenez. Un jour vous arrivez à la maturité, à ce moment-là vous avez des cases, vous savez ranger tout ce qui vient de nouveau. Mais à votre âge, je vous conseille de ne pas avoir du tout de structure figée. Peut-être que tout reste malléable. Est-ce que c'est clair? C'est ça la vie de l'esprit. L'esprit ne s'arrête jamais de travailler. Alors dès qu'il s'arrête de travailler, c'est la sclérose absolue. Et on croit qu'on a des idées ou des opinions. En réalité, c'est les mots qui pensent à travers vous et vous devenez des objets à penser. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est-à-dire, méfiez-vous, surtout à votre âge, des convictions définitives. C'est la mort de l'esprit. Okay? Tout doit être en question et en vie, sans arrêt. Bon, les connaissances doivent être précises, de telle sorte de ne pas... Il ne faut pas changer une lettre, il ne faut pas changer un mot, il faut comprendre les choses comme elles sont, mais la vie de l'esprit elle-même doit être constamment vivante et constamment à se refaire. Alors, un des conseils, vous en donnerez d'autres pendant l'année, un des conseils qui, en tout cas moi personnellement, m'a beaucoup servi, empêchez-vous de vous endormir si vous n'avez pas en tête une idée nouvelle. Même si elle est fausse, ça n'a pas d'importance, ça s'arrange. Mais au moins, vous avez pensé quelque chose par vous-même à travers ce que vous avez appris de nouveau dans la journée. Alors, en tout cas, ce lexique, ne vous laissez pas non plus prendre par le temps. Chaque fois, prenez un petit quart d'heure et vous faites le bilan de tous les mots que vous avez pris dans les cours. C'est indépendant de vos cahiers d'Ulpa. Okay? C'est clair? De telle sorte de pouvoir utiliser. Bien. Alors, je vous propose un peu de la manière suivante. Le premier cours, c'est le dimanche. On va le consacrer à l'étude du Sidour et des Mitzvot. Et on commencera dimanche prochain par l'étude de la Tfila, de la notion de Tfila. Vous apporterez vos Sidourim. Tout le monde sait ce que c'est un Sidour, ok? Vous apporterez vos Sidourim. Nous travaillerons avec un Sidour qui sera commun dans l'étude. Un Ashkenaz, un Sfarad, sont les Sidurim que vous avez au Beta Knesset, l'édition de Rina d'Israël, qui est la plus claire. Et je voudrais que vous ayez aussi, en plus, chacun son livre personnel. Alors très rapidement, on fera ce travail dimanche, on essaiera de situer pour chacun quel est son rite originel familial, si c'est Mitznaged, Ashkenaz Mitznaged, Ashkenaz Sfarad, si c'est Sfarad Nord-Africain, si c'est Sfarad Babli, tout ça je vous expliquerai, mais je tiens à ce que chacun ait le livre de sa famille. Et quand il y a une variante, quand il y a une différence, on s'arrête, on étudie pourquoi, et chacun s'insère dans son rythme. C'est clair? Bon, vous découvrirez que le monde de la Bible est tellement riche et diversifié, et nuancé, et 3000 ans d'histoire, c'est 3000 ans d'histoire, vous avez énormément de choses à apprendre. Mais au moins, les choses qui vous concernent personnellement, apprenez-les de façon très exacte, ne soyez pas amateur. Bien. Alors, ça, on fera dimanche. On commencera par la suite. Le mardi et le mercredi, vous me direz d'ailleurs vous-même si le cours d'historiosophie, vous le voulez en récifoute, c'est-à-dire suivi, mardi, mercredi, ou si vous voulez qu'on fasse une halle, qu'on prenne notre sujet entre-temps. Moi, je préférerais que ce soit suivi. Enfin, on décidera ensemble. Donc, le mardi et le mercredi, c'est le cours que nous allons commencer aujourd'hui sur le livre de Bréchy. Le jeudi après-midi, ça sera les cours de confrontation des notions que nous aurons à aborder. C'est clair? Bon. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par la question que je vais demander de préparer. Vous rappelez, vous avez trois versets à préparer. Je ne sais pas si on va y arriver déjà, mais enfin, on va s'en servir. Et puis, demain après-midi, nous commencerons la première notion qui va être étudiée en confrontation. C'est la notion de création, qui est la première qui apparaît dans le texte de la Bible. Alors, je vous avais demandé aussi par Vanda, tout ça on aurait dû faire hier, mais j'étais indisponible. Vous voyez, je vous avais prévu, si on prend trois, on prend trois. Et là, ça devrait être les projecteurs. De lire au moins le premier chapitre, ça a été fait? Bon, alors ce que je vous demandais aussi, c'est d'ici Shabbat, on passera Shabbat ensemble, c'est le premier Shabbat de promotion, c'est la paracha de Noar, qui est la deuxième paracha. D'ici Shabbat, d'avoir lu tous les chapitres lus, hein, que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dans la tête, et ensuite, si vous voulez en hébreu à la tefila, les deux parachutes, Bereshit et Noar. Alors, je vais vous donner les numéros des chapitres. Ça, vous lisez, au moins que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est donc depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 12, les 11 premiers chapitres. Donc, les 11 premiers chapitres, ceux qui lisent en hébreu, vous lisez en hébreu, mais enfin, lisez-le au moins en français, que vous ayez dans la tête les contenus. Vous verrez à quel point, quand vous aurez appris, commencé à apprendre, le texte en hébreu est radicalement différent de tout ce que vous pouvez supposer avoir en français, même en traduction par les spécialistes. Bien. Alors voilà, le premier thème que nous allons étudier, c'est la structure du récit de la création. Alors ça va, du premier verset du premier chapitre, jusqu'au chapitre 2, verset 3. Donc, on va commencer par quelques petits principes de vocabulaire. Alors, vous allez formuler, c'est pour le moment, c'est le titre même. Ce premier chapitre, donc, ça y est, là, vous allez vous demander instamment, et comme on commence personnellement, on va déjà parler. Si vous avez quelque chose à dire, tout le monde, c'est intéressant. Et justement, ça marche pour le moment. Je vous ai demandé de préparer plus en détail les trois premiers versets du deuxième chapitre. Je ne sais pas si on va déjà l'utiliser aujourd'hui, enfin, la semaine prochaine certainement. Son atelier, j'ai mardi prochain de voyage. Et alors, tout cet ensemble de textes, depuis le premier verset du chapitre 1 jusqu'au troisième verset du chapitre 2, c'est le récit de la création. Bon, on pourrait passer toute l'année rien sur ce problème, enfin, je vais essayer d'aller rapide. Alors, il y a un certain nombre d'expressions qui sont employées habituellement, et on commence par parler en français, sur ce sujet et qui sont erronés. Alors, nous allons prendre des définitions de telle sorte que vous ayez bien en tête les catégories dont je vais parler. Par exemple, vous avez sûrement entendu rencontrer l'expression les 6 jours de la création. Oui ? Alors, c'est la dernière fois que j'emploie. Elle est complètement fausse. Parce que la création comme telle, l'acte de création, s'épuise dans l'instant du commencement. Donc, il n'y a pas 6 jours de la création. Alors, vous voyez, tout de suite, on va s'habituer à un emploi précis de chaque mot. En hébreu, d'ailleurs, cette expression n'existe pas, les 6 jours de la création. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en hébreu. C'est une toute autre expression qui existe en hébreu. C'est Shechet, qui veut dire 6, Yéme, Jour, Amarasé. Or, Marasé, le Marasé, ça ne veut pas dire la création. Marasé, ça veut dire, qui connaît l'hébreu ? Anna, l'œuvre. Sous-entendu, l'œuvre du commencement. Alors, je répète cette formule, retenez-la bien en hébreu, Shechet, Yeme, Amarasé. Ceux qui ne savent pas encore l'hébreu, vous allez retrouver ça un jour. Mais notez quand même dans vos notes. Okay? Les 6 jours de l'œuvre, sous-entendu de l'œuvre du commencement. Ça nous renvoie à une deuxième expression qui est Marasé de l'échec. L'œuvre du commencement. L'œuvre de ce qu'il y avait au commencement. Alors j'explique tout de suite, et cette notion nous la retrouverons demain après-midi dans notre philosophie. Le postulat de l'idée de création dans le vocabulaire
Pour être pris au sérieux. C'est-à-dire création.
En hébreu, bria, c'est pas une façon de parler. Et vous allez voir à quel point il faudra faire effort pour arriver à penser la notion métaphysique du mot de bria en hébreu, qu'on traduit par création. Bria. La création. La racine, c'est paro, et je vous expliquerai demain après-midi que ce mot n'existe avec ce sens-là qu'en hébreu. Mais ça, nous verrons ça demain après-midi. Alors, quel est le postulat, si nous prenons au sérieux, c'est qu'il n'y avait rien, subitement, il y a quelque chose, un monde. C'est clair? Hors de quoi, on ne pense pas le mot qu'emploie l'hébreu. Si, par exemple, vous prenez le mot de création dans son sens artistique ou littéraire, une création littéraire, une création artistique, créée dans le sens de... à partir d'éléments qui existent déjà, faire apparaître une forme nouvelle. La forme est nouvelle. Mais c'est par façon de parler qu'on dit c'est une création. En réalité, c'est une yetzira, et non pas une beria. Et c'est comme ça qu'on le dit en hébreu, une yetzira, c'est-à-dire une...
Transformation.
Une formation. Ça peut être une transformation, une forme. Mais toujours à partir d'éléments qui existaient déjà. Et c'est la constellation des éléments qui fait apparaître une apparence nouvelle. Mais du point de vue métaphysique total, c'est pas une création dans le sens hébreu du terme, pour parler de la création du monde. Il y avait quelque chose. Et on a fait apparaître une forme nouvelle. Mais ça s'appelle une yetzira, pas une beria. Alors je vous mets l'autre mot en haut, yetzira. De la racine yatzar, et pas de la racine bara. Vous voyez la différence? Alors, vous comprenez déjà pourquoi on ne peut pas dire les 6 jours de la création. Parce que la création n'a pas duré 6 jours. Elle dure l'instant du commencement. Et un instant qui n'a pas de durée. Exactement comme en mathématiques, un point n'a pas d'épaisseur. Le point est là, mais il n'a pas d'épaisseur. Alors, l'instant de l'apparition à l'être est là, mais elle n'a pas de durée. C'est une espèce de jonction entre l'éternité et le temps, qui est une notion qui fait partie de la raison humaine. Ça, nous étudierons en détail demain après. La notion de création telle qu'en paradis, la raison humaine, livrée à ses propres forces, ne la possède pas. Et d'ailleurs, elle n'est pas rationnelle. Elle est même anti-rationnelle. Okay. Je veux dire très rapidement. En latin, ça se dit ex nihilo. Vous avez entendu parler de chinois, c'est ça? Ex nihilo, ça veut dire que ça vient à partir du nihil. Nihil, c'est le néant. Okay. Et on répond tout de suite, ex nihilo, nihil. À partir de rien, il n'y a rien. Tant que la raison résonne, fonctionne d'après le principe d'identité, eh bien cette notion est irrationnelle. Et vous voyez, au bord de quel genre de problème nous nous trouvons, okay? À la rigueur, il peut y avoir hypothèse par l'imagination de l'intelligence, mais pas par l'intelligence, hypothèse de la création, il n'y a aucune certitude rationnelle que cette notion a un sens rationnel. Ça veut dire qu'elle a un sens d'un autre ordre. Et comment nous la connaissons, comment nous l'avons dans l'esprit comme certitude, pas comme hypothèse, parce qu'on l'a apprise de la Bible. Est-ce que c'est clair? C'est une notion qui vient de la révélation biblique et non pas du tout du fonctionnement de la raison. Vous allez dire, il y a énormément de croyants qui pensent la notion de création comme quelque chose qui va de soi, comme si c'était rationnel. C'est le résultat de l'habitude, de la familiarité avec une information qu'on a déjà. Mais c'est une information qui vient du dehors de la raison. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon, tout ça, nous reprendrons plus en détail demain après-midi, mais je vais citer pour vous montrer que l'expression « les 6 jours de la création » est un non-sens dans le langage biblique. C'est les 6 jours du commencement, de l'heure du commencement. Alors voilà de quoi il s'agit, la Torah, vous allez tout de suite me donner le verset vous-même, le dit tout de suite. Au commencement, Dieu avait créé le ciel, la terre créée, fait apparaître à l'être. Résultat, la terre est à l'état de chaos. Ça veut dire que cet être du monde créé est à l'état de chaos. Nous, je parle en français ou en chinois. Et les 6 jours, c'est les 6 jours de l'organisation de ce chaos. Vous voyez, c'est un tout autre terme. L'aboutissement de cette organisation s'appelle le maasé, l'œuvre, avec un grand O. L'œuvre. Opéra en latin. Vous suivez? Le faire de cette organisation s'appelle la Yetzira. Et l'accomplissement, non pas l'accomplissement encore, mais L'aboutissement de cette Yetzira, c'est le Maasya. Ah oui, on a pris déjà trois mots. Bria, c'est l'apparition à l'être au commencement, Eskalta de chaos et d'obscurité. Et puis, six jours d'agencement de cela, de ce Homer, de cette matière première du monde, et le résultat, c'est le Mars. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est pourquoi on dit en hébreu, Shechet Yeme Amaasé, les six jours de l'œuvre, Maasé Bereshit, l'œuvre du commencement, et ça veut donc dire les six jours de l'œuvre du commencement. Ça va jusque-là? C'est clair pour tout le monde? Si vous avez une question, tout de suite. Bon. Et il y a un septième. Et les trois versets que vous avez eu à préparer concernent le septième. Bon, vous avez bien ça en tête? Donc, alors on revient un peu plus en détail. On va aborder, si vous voulez, la question suivante, qui est un premier problème très important. Quelle est la finalité de cette création du monde? Vous comprenez le terme de finalité, en vue de quoi? On pourrait refuser la question. On pourrait dire, il n'y a pas de finalité. C'est comme ça, il y a un monde. Mais ça veut dire qu'on refuse la notion de création, si on refuse la finalité. Pourquoi? Parce que s'il y a eu création, dans le sens qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il y a un créateur. Donc c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu quelque chose. Et c'est ça le sens de la finalité. Alors, vous trouverez en philosophie générale que la plupart du temps, on est tellement pris de vertige devant cette manière de poser le problème qu'on le refuse. Pas de finalité. Mais que ça veut dire pas de finalité? Pas de créateur. Est-ce que c'est clair jusque-là? Mais si on accepte la question finalité, alors elle se forme, d'après la tradition juive, d'après la tradition hébraïque, de la manière suivante. Quelle était l'intention du créateur? Tout de suite, il faut se réveiller. Qui va se permettre de deviner l'intention du créateur? Ok? Vous comprenez? Ou bien on sait de quoi on parle, ou bien c'est grotesque. Bien c'est ridicule. Et alors, donc, c'est peut-être qu'il y a un postulat quelque part que cette intention du créateur a été révélée, a été dévoilée. Bon. Et où on va pouvoir se renseigner? Bien sûr, dans ce texte. C'est clair? Bon. Donc, ayons bien à l'esprit le caractère, comment dire, il manque un mot en français ici, le caractère présomptueux, prétentieux de la question. Et vous comprenez pourquoi on a tendance à la refuser, cette question-là. Alors ça veut dire que celui qui va donner la réponse est dans les secrets du bon Dieu. Ça donne le vertige. Vous suivez? Vous apprendrez déjà, on a commencé déjà aujourd'hui, qu'il y a toujours un vertige qui guette la conscience juive. Parce que si la conscience juive se prend au sérieux, c'est très sérieux. Alors on a peur, on ferme les yeux. Vous voyez pourquoi il y a tellement de juifs qui ne veulent pas rien savoir du judaïsme? Parce que c'est une espèce de pressentiment que si c'est sérieux, c'est trop sérieux. Alors ça donne le vertige. C'est clair? Il y a une seule... remède, un seul remède, c'est l'humour. C'est ça que vous venez d'apprendre. Qu'est-ce que c'est que l'humour? Ça consiste à ne pas se prendre au sérieux. Quelqu'un qui sait des choses de l'esprit et qui se prend au sérieux, c'est épouvantable. Vous voyez tout de suite, hiératique, ecclésiastique, un air de sorcier sur la figure, et il parle de Dieu. Okay. C'est pas sérieux. Vous suivez? Alors voilà ce que je vais expliquer. La seule garantie contre ce vertige, c'est l'humour. Comprenez bien que c'est la première dimension de la vie spirituelle, c'est d'être capable d'humour. D'ailleurs, en français, de façon très fine, on appelle ça faire de l'esprit. Vous avez remarqué, tu vois. Et il y a des gens qui s'aident avec des spiritueux, mais ça, il faut éviter. Et là, ça, les Français hein, savent ce qu'ils veulent. In vino veritas, disaient les Latins. Il faut éviter parce que maintenant, s'il y a in, il y a sa saute. Et alors, là, ça, on apprendra à propos de Pourim. Pourquoi il faut boire du vin à Pourim? Et d'Avka à Pourim. Pourquoi? Regardez le mot. À Pourim. C'est une histoire de Pourim, cette histoire. Voilà ce que je veux dire. Il ne faut pas se prendre au sérieux, mais il faut prendre les choses au sérieux. C'est la seule garantie. Est-ce que c'est clair? Il y a dans la Gemara une phrase que quand deux talmidei chachamim, deux sages, se rencontrent, s'ils commencent pas par éclater de rire ensemble, ils sont passibles de mort. très étonné, ça c'est l'humour talmudique, de Hachamim se rend compte, si on les voit pas éclater de rire tout de suite ensemble, et ils peuvent d'ailleurs faire semblant d'ouvrir le livre, okay, alors ils sont passibles de mort. Pourquoi? Ben parce que ça veut dire qu'ils se prennent au sérieux. Vous avez été clair? Bon. Et vous verrez plus tard que la seule chose sérieuse dans la vie, c'est l'humour. Ce qu'on appelle les histoires juives. C'est pour ça que je voulais vous signaler cela. C'est pas pour rien qu'il y a un humour juif caractéristique et qui est extrêmement profond. Un jour, vous allez faire des exercices pratiques d'histoire juive. Essayez de vous retrouver dans votre mémoire les meilleures histoires juives et on fera Pirouche Rashi dessus. On fera le commentaire de Rashi dessus. On essaiera de voir ce qu'elle donne. Et il y a toujours une très profonde sagesse, mais elle est cachée derrière l'humour. Et si on la rencontre en se prenant en sérieux, ça ne fait pas sérieux, bon, vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Est-ce que c'est clair? C'est le plus grand blasphème, ça consiste à se prendre pour, le bon Dieu lui-même. Même les gens qui se prennent au sérieux, c'est ça. C'est d'ailleurs le commencement des maladies mentales. Bon, vous voyez comme ça va loin. Alors, on revient au problème. De quoi je vais parler? Oui, quelle est la finalité? Alors voilà comment la question se pose. Dans tous les cas, nous pouvons comprendre l'intention du Créateur qu'en voyant le résultat de son acte. Okay? C'est la seule manière dont nous disposons pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu faire en voyant ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez l'équivalence? Okay? C'est-à-dire la réponse, la question à la finalité, nous ne pouvons trouver la réponse que dans le résultat du Maasé. La réponse est très simple. Alors, on va essayer de la découvrir ensemble. Donnez-moi des hypothèses de réponse. Vous voyez par quel procédé nous allons procéder. Étant donné que l'acte de création du monde a un résultat, l'existence du monde, de ce simple fait, essayons de penser par induction, d'inférer quelle était l'intention du Créateur. Hypothèse. Hein,
du fait que ça finisse par la création, la formation de l'homme,
très bien.
Vous pouvez imaginer que c'est donc l'objectif.
Très bien. Alors, on va d'abord retenir ça. Okay. Et on est d'ailleurs en plein dans le sujet. Et je voudrais l'aborder un peu avec une première. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Vous avez entendu ce que Elie a dit?
Non.
Étant donné qu'en fin de compte, l'œuvre de la création s'achève par l'homme, c'est donc que l'intention du Créateur, c'était de créer un homme. Ok? Bon, il y a peut-être quelque chose de préalable à cela. Mais en tout cas, on va y arriver. Bon, est-ce que vous avez une autre manière de répondre? Ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe. Okay? Vous gardez votre disponibilité d'esprit. Okay? C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que ça y est, camarade, nous, on a fini le sujet. Vous y êtes? Comme je l'ai dit l'autre soir, faites attention, surtout dans ce qui est écrit. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai qu'on l'a mis par écrit. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui était vrai qu'on l'a mis par écrit. C'est très différent. Vous savez à quel point les gens sont impressionnés quand quelque chose est dans le journal. C'est dans le journal. Asma, c'est dans le journal. Il faut comprendre. Méfiez-vous de ça. Vous voir toutes les légendes qu'on raconte sur l'écriture, c'est des légendes. Et ça, c'est Goy de dire l'écriture avec un grand R. C'est les Goyim qui disent les écritures. Nous disons la lecture, Mikra. Oui, et la différence. Bon, ça, on apprendra une autre. Oui, tu as une autre hypothèse?
L'œuvre de la création a également abouti à un jour de repos. Donc,
pour Dieu?
Pardon?
Dans l'intention de Dieu.
L'intention de...
Alors, on fait une petite analyse logique. Cette notion de repos, qu'on aura d'ailleurs à critiquer, n'a de sens qu'après l'effort de la création. Mais avant, il n'y avait pas d'effort. Et tu vois comment ton raisonnement, il faut le remettre sur pied. Ça veut dire que je viens fatigué pour pouvoir me reposer. Vous connaissez cette histoire de fou, quand il s'appelait sur le... Je me demandais pourquoi. Si j'avais le mec, ça fait quand je m'arrête. Ben, comment ça? Tu vois, c'est le remède.
J'ai une critique à me faire.
Ça ne veut pas dire que tu n'as rien dans ce que tu as dit. Mais ça ne répond pas à notre question, maintenant.
J'ai une critique à faire à l'argument que je viens de donner.
Oui.
Si l'aboutissement est l'homme, si l'aboutissement était l'homme, on se serait arrêté au sixième jour, point final.
Mais ça s'arrête au sixième jour.
Non, mais il y a une continuation.
Ah, mais l'œuvre du commencement s'arrête au sixième jour. Tu suis?
Oui.
Ta critique contre toi-même.
J'aurais pu penser donc que l'homme a été fait pour continuer quelque chose.
D'accord, mais l'objectif. D'accord, mais l'objectif. C'est-à-dire, il y a une suite de ce que tu as dit. Mais ce que tu as dit reste en place. Que l'intention c'est l'homme et son histoire. C'est l'homme. Ça y est? Okay.
Protéger la vérité.
Ah, très bien, répète, plus clair.
Protéger la vérité.
Protéger la vérité. Alors, explique-toi. C'est le mot de protéger qu'il faut que tu expliques. L'idée qu'il y a derrière, peut-être que j'ai déjà compris, mais explique protéger, qu'est-ce que tu veux.
De créer une épaisseur de mensonge suffisamment épaisse.
Oui.
Pour la vérité.
Pour la
vérité.
Vérité. Ah, ça c'est bien. Bon, ça va laisser encore ça de côté. Ça se formule comme ça dans le Midrash. Pour dévoiler la vérité. Et c'est dans ce dévoilement qu'elle est mise en épreuve de vérification. Okay. C'est clair. C'est une autre hypothèse. Mais peut-être différente. Est-ce que le monde a été créé pour qu'un homme existe, et à cet homme on lui donne la vérité, ou bien est-ce que le monde a été créé pour l'histoire de la vérité, le dévoilement de la vérité, et pour ça on a créé un homme? Ce sont deux hypothèses différentes. Et cette discussion existe dans la tradition du temps. C'est clair. C'est ça un peu en suspens, mais retenez l'argument. Qui veut dire que les données sont claires, okay. C'est-à-dire, vous voyez tout de suite que l'option religieuse, spirituelle, culturelle, politique à la longue, va être très différente si on prend ce point de départ ou celui-là. Est-ce que c'est clair? Là, vous avez les humanistes, là, vous avez les dogmatistes. Vous comprenez le mot? Bon. Je schématise en culture française, en fait, dans la société, c'est un peu plus nuancé. Cette discussion est importante. Et on l'étudiera dans les sources. Alors, ce que je vais vous demander quand même, c'est que quelqu'un, si c'est trop fatigant à travers l'année, un frère ou une par semaine, note les références qu'il faudra étudier par rapport à votre étude. Alors, tu vas noter ça, toi, puisque les deux. On étudiera dans le Midrash ce problème-là, l'homme ou la vérité. On va le mettre. D'accord? Et chaque fois, je vais se préparer à la référence, vous l'ayez en principe pour faire vos dossiers de documentation. Alors, cette discussion existe, c'est déjà première. Je recommence. D'où on était parti? Quelle était la finalité de l'existence du monde? L'intention du créateur? Alors on a déjà vu que l'homme vient la vérité. Grosso modo, ne vous laissez pas impressionner. Enfin, je ne sais pas parce qu'il y a un peu plus de barbe et un peu plus de cheveux, mais ne vous laissez pas impressionner. Grosso modo, comment vous choisissez? Quelle est votre option? Qu'est-ce que vous préfériez que ce soit vrai? Ça ou ça?
Je ne comprends pas ce que
ça veut dire. Ah, tu comprends pas ça? Non, protéger en enlevant ce mot-là.
Oui, la vérité, je comprends.
Voilà. Imaginons que de toute vérité, il y a une vérité. Bon. Et alors, elle n'est qu'au niveau théorique. Elle n'est qu'au niveau idéal. Elle est vérité, mais elle n'existe pas. Alors, on aurait créé un monde de la réalité pour que cette vérité soit mise à l'épreuve. Quelqu'un d'entre vous a fait des sciences? Bon, c'est tout le problème qui est entre les mathématiques et la physique. La physique, c'est là où la vérité mathématique se vérifie. Dans la médecine, où la médecine doit être dans la réalité. Est-ce que c'est clair? Oui, il y a un monde de la vérité. Et il est là de toute éternité. Mais il n'existe qu'à travers une réalité. Okay? Alors, peut-on avoir cette hypothèse? Finalement, ce n'est pas la réponse à la condition de lui, mais elle est en problématique dans la question. C'est que le monde aurait été créé afin que la vérité puisse exister dans la réalité. Vous suivez? Nous sommes toujours au niveau d'hypothèses. Et ça aussi, faites bien attention. Quand on réfléchit sur des hypothèses, c'est des hypothèses. Et comme ça, prenez des connaissances, c'est des connaissances. C'est clair? Arrivons, bien exprimé. Si je me pose la question, qu'est-ce que le texte pourrait vouloir dire? Vas-y, on a le droit d'avoir toutes les hypothèses qu'on veut, à condition qu'elles soient formulées de façon polie. Vrai ou pas vrai, c'est notre problème. Mais que ça soit à gauche. Comme voilà. Maintenant, qu'est-ce que le texte dit? Ça, c'est des connaissances. Vous voyez la différence? Bon. Alors, il y a encore une autre approche du problème. Et on va revenir un peu plus bas dans le problème. Vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous préfériez? Que le monde soit fait pour l'homme ou pour être un laboratoire de vérité?
Mais à qui ça servirait
de
besoin d'avoir un laboratoire de vérité comme ça?
À
qui ça servirait?
J'en sais pas, besoin de... Ça, ce serait une dimension de la question. Tu vois? Et après, alors, on se demandait pourquoi il faut la vérité soit mise à l'épreuve. Remarquez, attends, qu'est-ce que tu fais comme étude? Oui, c'est le sens de ta question. À quoi ça peut servir? Non, mais très bien attention que il y a une subjectivité de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une question de la carrière. Tu te rends compte ? Réfléchis-tu. Si tu étais si installateur d'électricité, ce serait un peu à côté. Non, vous avez tout de suite à épurer votre vie intellectuelle. Il y a une subjectivité. Peut-être ta question peut avoir été du problème, mais tu ne la posais pas bien. Il faut que ça serve à quelque chose. Et peut-être que c'est peut-être que c'est pas le cas. Il n'est pas évident que les valeurs doivent servir à quelque chose. Par exemple, un peintre n'aurait pas besoin. À quoi ça sert un tableau? Bon, il faut le rendre, mais c'est pas pour ça qu'il a été fait.
Non,
ah.
Est-ce que ça peut être les deux?
Ça peut être les deux, vous choisirez la vérité dans la mesure où on est allé à créer quelque chose. On fait cette chose aussi pour se faire connaître, donc Dieu veut se faire aussi connaître, créer un monde, en fait, c'est une finalité.
C'est une troisième hypothèse, c'est pas la même.
C'est plus la même.
C'est plus la même. Qui est dans le problème. C'est autre chose. Vous voyez? Non, mais je vous pose une question simple. Spontanément, qu'est-ce que vous préfériez? Cette réponse ou celle-là? Non, pourquoi?
Moi, je préfère.
On laisse quelque chose devant nous, sinon on laisse la vérité à découvrir si on choisit l'homme.
Moi, je préfère l'autre.
Pas du tout. Ça fait partie de cette thèse. C'est-à-dire que l'homme est créé pour que la vérité soit découverte. Et par conséquent, l'homme a toute la vérité à découvrir. Mais seulement le critère, c'est la vérité, c'est pas l'homme.
Mais si l'homme est créé, donc c'est une réalité. Donc il peut aboutir à la vérité.
D'accord. À ce moment-là, tu choisis pour cette thèse-là.
Bon, quand j'ai dit l'homme, c'était une réflexion, mais en fin de compte, c'était une conviction, parce que je ne vois pas du tout de la vérité. Dans la mesure
où
c'était une réflexion, non pas une conviction. Je préfère celle de la vérité dans la mesure où ça commence par la création.
Allez, sois gentil, dis-toi tout de suite que tu préfères l'homme et on fait la paix.
Ça commence par la création de la lumière.
As.
Et on pourrait croire que, bon, il y a eu un tohu, un chaos, donc le phara. Ensuite, il y a la formation de ce qui importe le plus, donc la lumière. Et on finit par l'homme pour qu'il continue justement sur ce travail.
Attends, je pose une question simple et puis on revient au sujet. Est-ce que tu crois que la lumière est lumineuse s'il n'y a pas un œil humain pour la regarder? Évidemment. Je vous donne un exemple. Et d'ailleurs, ça me permettra de vous donner un conseil pour l'électricité. Bon. J'allume le bouton électrique. Alors il fait clair. À condition qu'il y ait quelqu'un pour percevoir cette lumière. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la chambre quand j'allume? Il y a une vibration de l'éther. Il y a une vibration, c'est-à-dire une modification physique du milieu ambiant. Quand il y a un œil qui capte ça, ça devient lumineux dans ma conscience, pas dehors. La chambre est obscure, c'est moi qui vois clair. Est-ce que c'est clair?
Oui.
Alors c'est pourquoi ça va de soi que ça ne sert à rien de laisser l'électricité allumée quand il n'y a pas de chambre. Parce que dire là, ça ne sert à rien. Bon, alors on referme ça. Et c'est pas seulement vrai pour les sensations lumineuses, c'est vrai pour toutes les sensations. Les sensations ne sont qu'un phénomène de conscience. Par conséquent, même lumière, il n'y a pas, s'il n'y a pas un homme. Vous avez bien compris?
Et quand il y a un changement
de l'environnement? Qui est obscur. Une vibration de la matière, ça n'a rien de lumineux, elle est vibratoire. Okay? Vous avez une vibration. Alors, si vous la percevez avec les extrémités nerveuses du sens de la douleur, la vibration vous donne de la douleur. Si vous la percevez avec les extrémités nerveuses de l'œil, la vibration vous donne de la lumière. Ce n'est pas la même longueur d'onde, mais c'est le même éventail. Okay? Faites bien attention à ça. Vous voyez, derrière les mots qu'on emploie, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors c'est pour ça qu'il faut aller réacléate. Réacléate, ça veut dire doucement, doucement, et surtout savoir de quoi on parle chaque fois. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Oui, puisqu'on parle de lumière. Quel?
Donc s'il n'y a pas un homme pour voir l'autre homme.
L'autre homme n'existe pas. Ça, c'était un enseignement des philosophes idéalistes anglais. Vous avez entendu parler de Berkeley. c'était la phrase, enfin, la formule de sa philosophie. Être, c'est percevoir ou être perçu. Bon, c'est une philosophie très particulière, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, de très fondamental. Okay? Et c'est le grand problème de la relation autrui, qui est le problème de l'amour, commence là. Bon, et tout ça c'est des parenthèses, on essaie de côté, on revient vite vite au sujet, sinon on sera là demain matin.
Mais c'est un peu contradictoire.
Je viens de dire, on revient vite au sujet. Alors tu es dans le sujet, hein?
Oui, je suis étonné parce qu'on a l'impression que la lumière ne peut pas exister si l'homme n'existe pas, mais pourtant.
La lumière, la luminosité de la lumière. Attention. Parce que la lumière comme phénomène physique, eh bien nous savons maintenant finalement ce que c'est une vibration. Une vibration n'est pas lumineuse à moins d'être perçue. Alors elle est perçue comme lumineuse. Mais c'est dans ma perception. Bien. Alors, voilà comment, dans la problématique de la tradition juive, et juste dans les références, la question a été posée. Et vous allez découvrir quelle était la vraie question. Tout ça, c'est exact. C'est dans le problème. Mais ce n'est pas la vraie question. En tout cas, en partie. La question se pose ainsi. Qu'est-ce que Dieu a voulu créer ? Un monde ou un homme ? Si Dieu a voulu créer un monde, et alors là, on dira, pour dévoiler la vérité ou pour autre chose, alors l'homme, c'est rien du tout dans le monde. Il est un outil, un instrument. C'est le monde qui est. Et l'homme, il est dedans. Et en général, c'est la perspective de la culture occidentale. Même si à l'échelle individuelle, vous aurez des penseurs à l'échelle individuelle qui ont pensé la deuxième hypothèse, c'est malgré tout individuel. L'allure générale de la mentalité de la culture occidentale, c'est que ce qui y est, c'est le monde. Et ce qu'il faut expliquer, c'est comment il se fait que dans le monde, il y a un homme. C'est clair ? Et vous avez, ça en philosophie générale, en théologie, vous avez toute une série d'écoles théologiques pour qui ce que Dieu a voulu créer, c'est le monde. Et puis voilà, dans le monde, il y a un homme. Ça, on va s'arranger après. Vous voyez que le monde est en danger. L'homme est en danger dans cette perspective. Parce que ce qui va primer, c'est la loi de la nature impersonnelle. Et l'homme va être asservi à cela. L'homme, c'est un petit rien du tout là-dedans. Un microbe. Et vous verrez que c'est l'allure du premier chapitre. Alors que dès que vous abordez le deuxième, ça s'inverse. Et on a la deuxième réponse. C'est que Dieu a voulu créer un homme. Et pour qu'un homme soit situé quelque part, il a bien fallu un monde. Mais c'est le monde qui est contingent. C'est l'homme l'essentiel. Ce sont deux perspectives à laquelle il faut qu'on s'habitue. Parce que finalement, pratiquement, et Charles Gore, vous voyez, tous les conflits, qu'ils soient d'ordre idéologique, philosophique, théorique, et en fin de compte, moraux-politiques, ont leur racine ici. Quelle est la finalité de l'existence du monde ? Le monde ou l'homme ? Vous voyez ? Est-ce que c'est clair ? Et vous avez même, chez les théologiens eux-mêmes, suivant le tempérament de l'option, et vous avez cette différence. Par exemple, dans la première attitude, on mettra plutôt Maïmonide. Je dis plutôt parce que ça doit être nuancé. Okay? Maïmonide, c'est un rabbin, il sait très bien que l'homme, c'est important. Mais son discours, c'est que c'est le monde qui prime. Vous voyez ? Alors que dans le deuxième camp, on mettra plutôt Judas Lévi. Alors, je reprends l'analyse pour que nous sachions bien où on se situe. Okay? Et je vais le formuler, toute cette analyse, d'après l'école à laquelle je me rattache, par l'enseignement que je reçois, qui est la deuxième. Okay? Ce que Dieu a voulu créer, c'est l'homme. Et pour que l'homme ait une demeure, alors il a fallu un monde. Mais une fois que l'homme est là, le monde, ça n'a plus d'importance. Tandis que dans la première hypothèse, donc dans l'autre hypothèse, c'est un monde qui a voulu être créé. Alors jamais on comprendra comment l'homme est sorti du monde. Et vous avez là, vous ouvrez une parenthèse, qu'on aura un cours spécial là-dessus dans quelques mois, tout le problème de la mentalité évolutionniste. Que l'homme est sorti d'un être vivant antérieur, de plus en plus antérieur, finalement que l'homme est sorti d'une moisissure tombée des murs de la maison. Est-ce que c'est clair ? Parce que dans cette première hypothèse, c'est un monde que Dieu a voulu créer. Et à travers un monde, et c'est tous les Olamot, tous les univers, tous les niveaux de l'être du monde, tous les dévoilements de vérité sont possibles. Okay? Et alors voilà, et d'où l'homme sort ? Mais en fin de compte, dans la culture occidentale, je schématise beaucoup, mais vous comprenez la perspective, on ne s'en sort pas pour expliquer et comment l'homme est là-dedans. Okay? Alors, il est tombé des murs de la maison. Comment ? Je schématise, mais vous comprenez que c'est ça l'évolutionnisme. Une fois, un bout de salpêtre, une moisissure qui est tombée sur terre, ça fait une amibe, et puis l'amibe est devenue un canard, le canard un renard, le renard un singe, et c'est là. Et c'est nous. Ça, c'est la perspective qui découle de la première attitude. En fin de compte, ce qui fait problème pour les philosophes du monde, c'est l'homme. Est-ce que c'est clair ? On peut plus s'expliquer d'où ils sont. Si c'est un monde que Dieu a voulu créer, tout prend sa place dans le monde.
C'est l'homme.
Tout est à sa place. Les oiseaux, les artichauts, les chrysanthèmes, tout est à sa place. Qu'est-ce ? Et l'homme ? Alors voilà, l'homme, et bien voilà. C'était une amie qui est devenue un canard, qui est devenue. Ça veut dire quoi ?